Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous, c'est la campagne mondiale lancée ce mardi par tout le réseau Caritas, une initiative exceptionnelle pour que chacun se mobilise. Le pape a envoyé son soutien dans un message vidéo. Nous y revenons dès le début de ce magazine. Émotion à Soweto où une centaine de chefs d'État sont venus rendre hommage à Nelson Mandela. Le Saint-Siège y était représenté. Nous entendrons le secrétaire général de Justice et Paix en Afrique du Sud. Nous parlerons aussi de l'avant dans la ville, la retraite sur le web des Dominicains de Lille pour se préparer à Noël. Et puis retour sur le voyage d'un jeune couple lyonnais qui a passé 9 mois à découvrir ce qui unit les couples d'autres continents. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Une grande campagne contre la faim. Pour la première fois, Caritas Internationalis a lancé une campagne mondiale pour éradiquer la faim dans le monde. Une initiative lancée ce mardi et qui a pour thème « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». Elle souhaite mobiliser tous les hommes de bonne volonté pour mettre fin au scandale de la faim dans le monde à l'horizon 2025. Caritas l'affirme, le fait que les gouvernements garantissent le droit à la nourriture dans leur loi nationale est une étape essentielle pour garantir la nourriture pour tous. Ce droit essentiel et vital protège le droit de tout être humain à vivre dans la dignité, libéré de la faim, de l'insécurité alimentaire ou de la malnutrition. À l'occasion de cette campagne, le pape a enregistré un message vidéo pour soutenir l'initiative. Antonino Gallofaro.
Quand les apôtres dirent à Jésus que les personnes qui étaient venues écouter ses paroles avaient faim, il les incita à aller chercher de la nourriture. Le pape cite l'évangile. Vu qu'ils étaient eux-mêmes pauvres, ils ne trouvèrent que 5 pains et 2 poissons, mais par la grâce de Dieu, ils parvinrent à rassasier une multitude de personnes, recueillant même les restes et réussissant ainsi à éviter tout gaspillage. Nous nous trouvons face au scandale mondial d'environ 1 milliard de personnes qui aujourd'hui souffrent encore de la faim, déplore François. Nous ne pouvons pas tourner le dos et faire semblant que ce problème n'existe pas. La nourriture disponible dans le monde suffirait à nourrir tout un chacun, martèle-t-il. La parabole des pains et des poissons nous enseigne justement cela, poursuit le pape. Si la volonté est là, ce que nous avons ne s'épuise pas, il en reste au contraire et rien n'est perdu. Je vous invite à ouvrir votre cœur à cette urgence, appelle ainsi le souverain pontife, en respectant un droit donné par Dieu à tous, celui d'avoir accès à une alimentation adéquate. Le pape demande aussi d'être promoteur d'une authentique coopération avec les pauvres, pour qu'à travers leur travail et le nôtre, ils puissent vivre une vie digne. François demande aussi à devenir plus conscient de nos choix alimentaires, qui conduisent souvent au gaspillage ou à une mauvaise utilisation des ressources à disposition. Les choses sont claires pour le Saint-Père. Nos actions quotidiennes ont un impact sur la vie de ceux pour qui, voisins ou lointains, la faim est une expérience directe. Dans son message, François appelle enfin toutes les institutions du monde, mais aussi l'Église et chaque homme, à se faire l'écho des personnes qui silencieusement souffrent de la faim pour que cet écho, dit-il, devienne un rugissement capable de secouer le monde.
Cette campagne, la première du genre, implique donc les 164 organisations nationales de la Caritas présentes sur tous les continents. Elle se penche sur les questions économiques, culturelles, structurelles, politiques ou climatiques qui ont, on le sait, une incidence sur le scandale que représente la faim dans le monde. Que font-elles concrètement pour l'éradiquer? Nous avons posé la question à Martina Lipsch, coordinatrice du plaidoyer sur les migrations pour Caritas Internationalis.
Le but de cette campagne, c'est bien sûr d'éradiquer la faim jusqu'à 2025. Et pour ça, on voudrait mobiliser le plus que possible les gens de bonne volonté, mais aussi tous nos Caritas. Il y a pas mal de gens volontaires et aussi professionnels qui travaillent pour arriver à ce but.
Comment concrètement, sur le terrain, le réseau Caritas lutte pour essayer d'éradiquer la faim?
Pour utiliser un exemple, alors en Asie, les Caritas, tous ensemble, ils font annuellement une conférence avec les paysans pour discuter, par exemple, les méthodes plus agroécologiques pour cultiver de la nourriture, pour conserver l'environnement et pour leur aider aussi à que leur voix soit écoutée. Ça, c'est une façon. L'autre façon, par exemple, si je vais au Sénégal, il y a des projets qui travaillent beaucoup avec des femmes. Les femmes sont très nombreuses dans l'agriculture. Alors, on essaye de leur donner, par exemple, des microcrédits pour qu'elles puissent faire un petit magasin pour vendre leurs produits d'agriculture, mais aussi des autres produits qu'ils ont. Alors ça, ce sont deux exemples. Il y a beaucoup aussi des initiatives du capacity building, comme on dit en anglais, pour que les gens, par exemple, apprennent à cultiver de la nourriture dans des conditions très difficiles, quand il y a, par exemple, la sécheresse ou il y a trop d'eau, pour utiliser les méthodes, disons, qui sont le mieux pour cultiver quelque chose, pour qu'ils puissent manger, mais aussi contribuer à la nourriture de leur communauté.
Justement, le changement climatique que l'on ressent de plus en plus est quelque chose qui a un impact important, très fort, sur la malnutrition et sur la faim dans le monde?
Je pense que oui, parce qu'on voit de plus en plus les catastrophes climatiques, ça veut dire des inondations, mais aussi des sécheresses ou des pluies qui n'arrivent pas quand elles devraient arriver. Alors, il y a un impact très fort et en fait, on a publié un document qui parle de l'impact du changement climatique pour nourrir la planète.
Vous êtes aidé évidemment par l'Église. Est-ce que vous rencontrez des résistances en ce qui concerne le monde politique dans les pays qui sont le plus frappés par la faim?
Ça qu'on veut faire dans le processus de cette campagne pendant l'année prochaine, et c'est vraiment de commencer un dialogue politique aussi avec des gouvernements. On veut leur proposer d'inclure le droit à l'alimentation dans leur loi nationale. Et on verra s'il y aura vraiment la bonne volonté. Comme le secrétaire général venait de dire, tout le monde, ou presque tout le monde, 160 nations qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, où il y a le droit à l'alimentation. Alors, on veut demander au gouvernement de maintenant vraiment être sérieux sur ça qu'ils ont signé. Ça fait plus de 50 ans.
Des propos recueillis par Olivier Tosserie. Pour participer à cette initiative de Caritas, vous pouvez vous rendre sur le site internet caritas.org, télécharger la prière de l'ONG contre la faim ainsi que la célébration de prières, mais aussi bien entendu faire des dons en ligne. Les responsables politiques du monde entier ont rendu hommage ce mardi à Nelson Mandela dans le stade de Soweto, situé dans la banlieue de Johannesburg. Sous la pluie, une centaine de chefs d'État avaient fait le déplacement pour saluer l'ancien président sud-africain, héros de la lutte contre l'apartheid et père de la réconciliation nationale. Le Saint-Siège était officiellement représenté par le cardinal Turkson, le président du Conseil pontifical Justice et Paix. Même au-delà de la mort, Mandela unit les dirigeants du monde, a souligné dans un discours le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Des membres de plusieurs confessions religieuses se sont succédés à la tribune pour prier pour Madiba, avant que plusieurs chefs d'État ne prennent la parole, comme Barack Obama, très ovationné. Cet événement émouvant a permis des images fortes et symboliques, comme cette poignée de main entre le président américain et Raúl Castro, son homologue cubain. Michael Debb, le secrétaire général de Justice et Paix en Afrique du Sud, se souviendra surtout du discours prononcé par le président américain.
Il a parlé de la façon à être un bon leader. Il a parlé de l'intégrité de Mandela et c'était un défi à tous les leaders du monde, en fait, pour faire ce que Mandela a fait dans le rôle comme le chef d'État. Il y avait des gens qui ont dit, les gens de presse, que c'est un de ses plus importants discours. Et il me semble qu'il a très bien fait. Tout le monde était bien touché par ce qu'il a dit et comment il l'a dit. Autre chose qui m'a frappé, quand Zuma, notre président, et quand son image est arrivée sur l'écran, n'était pas très bien reçue.
Et selon vous, pourquoi Jacob Zuma a-t-il été hué?
Beaucoup de gens ne sont pas très fiers de ce qui se passe dans le gouvernement. Et donc, c'est un temps de réfléchir sur le leadership. Ce qui se passe aujourd'hui, avec ce temps de le rappel de Mandela, la vie de Mandela, peut nous aider de rassembler, de s'unifier comme un pays et comme un peuple pour regarder comment on peut demander au gouvernement de faire les choses vraiment dans le même esprit de Mandela.
Et des propos recueillis par Audrey Radondi. Sachez qu'à partir de mercredi, la dépouille de l'ancien président sud-africain sera exposée à Pretoria, la capitale, avant des funérailles d'État prévues dimanche prochain à Kounou, le village d'enfance de Nelson Mandela. Les Focolari ont demandé l'ouverture de la cause de béatification de leur fondatrice Chiara Lubich. La procédure a été adoptée le 7 décembre dernier à Castel Gandolfo lors de l'assemblée annuelle du mouvement. Ce même jour, le mouvement des Focolari fêtait son 70e anniversaire. Sa présidente Maria Voce a adressé la requête à l'évêque de Frascati, Mgr Martinelli. 5 ans après la mort de Chiara Lubich, le peuple et les autorités, les catholiques et les membres d'autres églises, religions et cultures ont exprimé l'espoir que la demande soit présentée, indique le mouvement. Très implanté en Italie, le mouvement des Focolari est né le 7 décembre 1943. Alors que nous nous approchons de la fête de Noël, rencontre ce mardi avec les Dominicains de Lille, dans le nord de la France, qui pour la deuxième année consécutive ont lancé l'Avent dans la ville, une retraite sur Internet proposée gratuitement afin de se préparer à célébrer la Nativité. Le frère Thierry Hubert, dominicain au couvent de Lille, est responsable du site Retraite dans la ville qui propose cette initiative. Il nous explique le principe de cette préparation innovante.
C'est à travers, disons, ce que nous proposons, hein, à savoir la possibilité de recevoir chaque jour une petite méditation qui dure 2 minutes, qu'on lit ou qu'on écoute éventuellement sur le site, les propositions d'écouter l'office en ligne des Laudes, et qui permet aux retraitants de vivre un vrai temps de prière de 15 minutes. C'est donc en quelque sorte de vouloir habiller son cœur, disons, couleur de Noël, et plus spécifiquement cette année, disons, de quitter la tristitude dans laquelle on vit pour redécouvrir, comme le dit le pape François dans sa dernière exhortation sortie ces jours derniers, eh bien, la joie de l'Évangile.
Et pourquoi, selon vous, cette préparation est indispensable ?
Il y a comme une sorte d'asphyxie de la fête de Noël par la publicité, par le consumérisme, si bien que notre proposition décalée, en fait, rejoint plus profondément le désir d'internautes catholiques ou en recherche d'entendre une autre parole que acheter et consommer.
Alors vous avez choisi « Où demeures-tu » comme thème. Quel message vous voulez faire passer avec ce thème ?
Où demeures-tu, c'est la question que deux disciples dans le début de l'évangile de Jean posent à Jésus. Sa réponse c'est « Venez et voyez » et il nous semblait intéressant que ce « Où demeures-tu » peut se comprendre effectivement comme une question à Jésus, mais aussi une question que l'internaute peut se poser pour lui-même. Où est-ce que vraiment je demeure présent dans mes rencontres avec les autres ? Où peut-on vraiment me rencontrer ? Et que lorsqu'on la pose à Dieu, cette question, eh bien, le message de Noël, c'est qu'il vient précisément demeurer dans notre cœur, demeurer dans notre chair. Et pour reprendre une phrase d'Angelus Silesius, hein, peu importe à Dieu de naître 1000 fois à Bethléem, si je ne nais pas une seule fois dans ta chair. Il y a cette idée qu'on voudrait pouvoir permettre de vivre aux retraitantes cette année.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Et voyageons un peu pour terminer ce magazine Batzoug Benzoug, c'est fini. Radio Vatican s'était fait l'écho de ce projet bien original, celui de Marie-Alix et Mathieu Charvet, un jeune couple français parti sur les routes de l'Europe et de l'Asie, à la rencontre des couples au travers des grandes religions de ces deux continents, le christianisme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. Les pas de ce jeune couple globetrotteur les ont portés de l'Allemagne à la Grèce, en passant par la Turquie, la Russie, le Cambodge, le Vietnam ou l'Inde. Dernière étape de leur périple, 9 mois de découvertes et de rencontres qu'évoque avec nous Marie-Alix.
Vraiment un voyage qui a très 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 bien marché. On est hyper heureux, comme on l'avait déjà dit un petit peu à Radio Vatican les dernières fois, mais là, on peut le dire définitivement. Donc d'une part par l'accueil complètement incroyable qu'on a reçu autant en Europe qu'en Russie, qu'en Mongolie et qu'en Asie. On a été très touchés par l'accueil des prêtres, des congrégations religieuses et aussi des familles, des gens dans les trains qu'on a croisés. Donc on a dormi pratiquement tout le temps dans des familles et chez des prêtres. Du coup, ça nous a permis de vivre le projet d'une manière très belle et très concrète, et de nous faire rentrer vraiment dans le sujet tout le temps. Et puis les rencontres des couples qui étaient magnifiques, et même si pas toujours, enfin des choses qui pouvaient parfois nous choquer, nous surprendre, nous étonner, mais des gens qui étaient heureux de témoigner pour nous et qui nous disaient des belles choses sur leur foi et leur vie de couple.
Alors la dernière fois que nous vous avions laissé, vous étiez en Chine, et depuis cela vous êtes allé un peu partout, donc en Mongolie, Vietnam, Cambodge, Malaisie, Thaïlande, Népal, Inde. Est-ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 rencontres qui vous ont particulièrement marqué ?
Oui, alors... une notamment en Malaisie, donc on a rencontré des musulmans qui nous disent tous depuis la Turquie un petit peu la même chose sur vraiment il faut suivre le Coran. Si c'est écrit ça au sujet du couple, ça veut dire que c'est vrai parce que le Coran est le texte incréé de Dieu, etc. Et on a rencontré un imam à Malacca, donc une petite ville un petit peu touristique, qui a été très heureux de témoigner pour nous et qui nous a dit des choses qui ont un petit peu changé de ce discours-là, ce qui nous a du coup assez touchés, je dois dire, car c'est un discours un peu plus spirituel. Il nous expliquait à maintes reprises que lui, ce qu'il trouvait beau, c'était vraiment l'amour de son Dieu, donc de Allah, et que l'homme et la femme sont égaux, l'homme et la femme sont là pour s'entraider, que le couple est une unité, que Dieu est au sein de ce couple, de son couple à lui, que les enfants sont un don de Dieu, et voilà, et que dans son quotidien, il essayait d'aider sa femme. Les rôles n'étaient pas définis comme la femme doit cuisiner, la femme doit subvenir sexuellement aux besoins de son époux, comme on entendait chez tous les musulmans. Du coup, ça nous a fait du bien un petit peu d'entendre un discours, ce qu'on va dire, plus spirituel et un peu plus ouvert sur l'islam. Donc ça peut être un premier témoignage qui nous a beaucoup touchés. Ensuite, peut-être pour finir, l'Inde, où on a passé un mois, on a été accueillis par des familles catholiques et on a été très touchés par leur foi donc dans leur vie de couple, qui était très, très démonstrative. Donc ce qui est peut-être très propre à l'Asie, ce qu'on a beaucoup vu depuis notre arrivée en Chine, je dirais. Chapelet tous les soirs, messe tous les matins, prière en couple tous les matins, plus prière individuelle. Et il y a vraiment une notion dans ces couples qu'on a rencontré de remettre sa vie à Dieu, et Dieu est au centre de leur vie de couple. Mais alors c'est pas du baratin, quoi. C'est vraiment concret, et ils le mettent, on va dire, en marche grâce à la prière, qui pour eux est très importante et va les guider. Et c'est tout à la grâce de Dieu et tout est bénédiction.
En Europe, on parle de la crise de la famille, de la crise du mariage, de la crise du couple, etc., dans les sociétés occidentales. Est-ce que la famille en crise, c'est aussi quelque chose que vous avez pu constater dans les religions que vous avez rencontrées, parmi les gens que vous avez côtoyés ?
Oui. Alors, c'est déjà quelque chose d'assez triste, malheureusement, c'est que pratiquement dans tous les pays, on nous disait, quand on interviewait des couples, mais vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de divorces maintenant, la famille est en crise, les gens n'apprennent plus à vivre ensemble, n'apprennent plus à faire des efforts, donc ça... On l'a vraiment entendu, pas du tout qu'en Europe, hein, en Chine, en Inde, etc. Donc je pense que malheureusement, on peut dire que de ce qu'on a vécu, en tout cas avec Mathieu pendant 9 mois, c'est assez mondial ce phénomène, du fait, je pense, de la mondialisation, des nouvelles technologies, de notre nouveau mode de vie. Ben, c'est vrai qu'il y a des choses qui font qu'on n'a plus le même schéma familial. Et du coup, il y a peut-être plus de couples qui se disent, finalement, on n'est pas obligé de rester ensemble avec les difficultés qu'on vit, donc vaut mieux se séparer. Et ça, de ce qu'on a vécu, malheureusement, c'était assez assez global. Après, dans les couples qu'on a rencontrés qui avaient la foi, et c'est ça qui nous a beaucoup touchés, c'est qu'il y avait toujours ce désir de dire, nous, quand il y a quelque chose qui se casse dans notre couple, et on le répare, on ne le jette pas, et on le répare avec la grâce de Dieu. Et ça, on l'entendait dans quasiment toutes les religions, et Dieu aide le couple à grandir, et il y a même beaucoup, beaucoup de couples dans différentes religions qui nous ont dit, mais sans Dieu, je ne serais jamais mariée, j'en serais jamais là aujourd'hui, j'aurais jamais pu supporter ma femme aussi longtemps. Donc il y a Dieu qui aide et qui fortifie le couple. Donc ça, je pense que c'est une grande chance qu'on a en tant que chrétien catholique de croire en l'Esprit Saint et à la force du sacrement du mariage, que peut-être malheureusement d'autres personnes n'ont pas.
C'était Marie-Alix Charvet, des propos recueillis par Manuela Figi. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.